Banquise FM vous propose de découvrir les 11 candidats aux élections législatives de la 8e circonscription du Pas-de-Calais. Nous vous proposons de découvrir leur programme et leurs convictions durant 20 minutes en compagnie de Vincent Frémaux.
Je suis avec Laure Bourrel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la candidate de Lutte Ouvrière pour ces élections législatives dans la 8e circonscription du Pas-de-Calais. Vous êtes enseignante et vous vous présentez avec, en tant que suppléante, Madame Sandrine Desrayaux. Alors avant tout, j'aimerais vous poser une question très simple. Qui êtes-vous ?
Je suis une militante de Lutte Ouvrière, voilà, de longue date, on va dire, puisque j'ai commencé à militer à l'âge de 18 ans et... Je me présente à ces élections législatives pour faire suite à la campagne de Nathalie Arthaud, puisque j'ai fait campagne pour Nathalie Arthaud au présidentiel pour faire entendre le camp des travailleurs et nous espérons dans ces législatives que tous les travailleurs qui ont pu voter pour Nathalie Arthaud, tous ceux qui ont eu envie de faire ce geste, qu'ils l'ont fait, mais aussi ceux qui ont hésité pour faire un vote utile, eh bien qu'ils puissent cette fois-ci aux législatives voter pour leur camp, pour le camp des travailleurs.
Alors si vous étiez élu, quelle serait votre première action, votre premier combat même on pourrait dire, quelle serait votre vision pour la France au niveau national ?
Si j'étais élu, ça voudrait dire que beaucoup de travailleurs, beaucoup de chômeurs, de retraités feraient un vote pour Lutte Ouvrière, c'est-à-dire un vote de conscience ouvrière, un vote de combativité ouvrière aussi, qui dirait prenons notre sort entre nos mains, cessons de faire confiance aux politiciens, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite. Prenons notre sort en main, donc organisons-nous et puis mettons en avant nos revendications. Donc je pense que effectivement votre question elle est intéressante puisque on utilise justement les élections pour populariser un programme qui pourrait être pris en main par la classe ouvrière et qui pourrait être mis en avant par les travailleurs le jour où ils reprendront confiance dans leurs forces, le jour où ils retourneront sur le chemin des luttes. Et donc, ce programme, c'est le programme qu'on met en avant. Donc, l'interdiction des licenciements et la fin des suppressions de postes dans les entreprises. Et puis, la répartition du travail entre tous. Nous parlons aussi de salaire avec 1800 euros net par mois. Et la fin de cette loi qui permet le secret des affaires, le secret commercial pour les patrons, qui est une loi qui protège finalement les grands groupes industriels et les grands groupes capitalistes.
Alors, on se doute que vos idées sont en opposition avec celles du gouvernement. Pour autant, est-ce qu'il pourrait y avoir consensus sur certains sujets entre des députés de Lutte Ouvrière et En Marche ?
Le gouvernement annonce clairement qu'il se prépare à prendre des mesures anti-ouvrières. Il a consulté les syndicats, qui se sont félicités de sa capacité d'écoute et de communication. Mais le message est clair, le message est très clair, c'est-à-dire des attaques anti-ouvrières, des attaques contre le Code du travail, en préparation des lois qui vont s'attaquer aux assurances chômage, en préparation des lois qui vont s'attaquer à la retraite. Donc non, il n'y a pas de compromis possible avec le gouvernement Macron, que ce soit celui qui est formé à l'issue de la présidentielle ou que ce soit le futur gouvernement après l'élection parlementaire, puisque de leur côté, le message est très clair et d'ailleurs... Le MEDEF, le grand patronat ne s'y est pas trompé, ainsi que la Bourse de Paris avec le CAC 40 qui a salué l'arrivée de ce gouvernement comme un gouvernement qui sera lui aussi, comme le gouvernement précédent, au service du grand patronat.
Alors un député à l'Assemblée nationale, ça agit justement au niveau national, mais ça a également pour mission de représenter la circonscription qu'il a élue. Alors j'aimerais vous demander, pour vous, dans cette 8e circonscription du Pas-de-Calais, quels sont les principaux problèmes et quelles solutions vous pourriez y apporter ?
Dans cette circonscription, mais comme dans beaucoup de circonscriptions, voire même dans toute la France et même dans d'autres pays du monde, un des fléaux principaux, c'est le fléau du chômage. Aujourd'hui, si on n'est pas un capitaliste qui possède des capitaux ou un grand propriétaire d'immeubles qui vit des loyers qui tombent tous les mois, c'est-à-dire que si on est un simple salarié, on a absolument besoin d'un travail pour vivre, absolument. Et aujourd'hui, dans ce pays, il y a 6 millions de chômeurs. Et dans la circonscription, il y a aussi beaucoup de chômage, beaucoup de misère, beaucoup de précarité. Une des mesures qui nous paraît vitale de prendre, c'est cette interdiction des licenciements et la fin des suppressions de postes dont j'ai déjà parlé, mais que je vais développer maintenant. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui? Il se passe qu'on demande aux salariés d'en faire toujours plus. Hein. Je prends l'exemple de la verrerie Crystal Ridark, là, qui est un petit peu mise sous les feux des projecteurs, puisque le ministre, monsieur le maire, s'est déplacé pour donner de l'argent public aux millionnaires actionnaires. Voilà. Donc dans cette entreprise, on demande aux salariés d'en faire toujours plus. On leur a supprimé des jours de RTT, on leur demande de venir travailler le samedi, on leur demande de redoubler des postes. Hein. Et dans le même temps, ces hommes et ces femmes ont parfois des enfants qui sont, eux, au chômage. Donc, on demande à ceux qui travaillent d'en faire toujours plus. Et pendant ce temps-là, il y a des jeunes, notamment, mais pas que des jeunes, qui se désespèrent au chômage. Alors oui, l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, ce serait une mesure, de bon sens et qui permettrait à l'ensemble de la population de vivre. Et bien sûr qu'il faudrait peut-être revoir les bénéfices des sociétés, les dividendes des actionnaires à la baisse, mais ce serait un moyen quand même de faire vivre l'ensemble et de faire passer devant ces intérêts de minorité restreinte l'intérêt de l'immense majorité de la population.
Alors ces dernières décennies, les gouvernements successifs ont entamé une politique de décentralisation qui s'est concrétisée cette année avec la création des nouvelles intercommunalités justement, dont la mise en place s'est faite de manière assez inégale, on l'a vu. Je pense notamment à la Cabalère, la communauté d'agglomération Béthune-Bruyères-Toilis-Romanes, où on a observé cette année une hausse de 20% de la taxe d'habitation à degré de service égal, puisque le gouvernement s'est déchargé de certaines missions sur les intercos. Pour vous, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Et si c'est le cas, est-ce que c'était la bonne manière de le faire?
Gérer les affaires publiques au plus près de la population, ça me paraît vraiment être une bonne idée. Maintenant, la façon dont cela a été fait, c'est vraiment un moyen pour l'État de couper des budgets publics, hein, que ce soit pour les départements, pour les régions, pour les communautés de communes. Il y a eu une augmentation des charges des collectivités locales et par contre, les budgets n'ont pas été transférés. Et l'intérêt... L'intérêt, c'est de se demander pourquoi cette opération a-t-elle été faite. On nous a présenté ça avec tout un tas d'arguments pour nous dire que c'était pour une démocratie locale, plus participative, etc. Mais la vraie raison pour laquelle ça a été fait, c'est des économies sur les budgets publics. Et des économies qui se traduisent aujourd'hui par une dégradation des services publics ou par une augmentation des impôts locaux. Et cet argent qui a été économisé sur le dos de la population, à quoi est-ce qu'il a servi ? Il a servi à alimenter le crédit impôt compétitivité emploi, par exemple, mis en place sous le gouvernement Hollande. Les plus de 40 milliards d'euros qui ont été donnés au patronat sous prétexte de gagner en compétitivité et pour embaucher. Le résultat de cette opération, c'est 1 million de chômeurs en plus sous le quinquennat Hollande. Alors, tous ces calculs sur les hôpitaux, sur l'école, sur la santé publique, ces calculs sur les besoins des populations et qui servent à alimenter des robinets largement ouverts pour donner de l'argent aux entreprises sous prétexte de créer des emplois alors que ça augmente le chômage. Voilà, oui, il faut arrêter les subventions aux entreprises. Il faut arrêter les subventions aux entreprises. Si l'État utilisait cet argent-là directement pour créer des emplois, eh bien, le chômage pourrait diminuer de manière assez considérable.
Votre avis sur le problème écologique ?
Bah écoutez, nous, on est très sensibles à la question de l'écologie. Hein. On est des communistes. Et donc, l'avenir de la planète, qui est quand même l'endroit où vit l'humanité, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Mais on pense là aussi que tant qu'il y aura des lois qui protégeront la propriété privée, tant qu'il y aura des lois qui permettront aux patrons de polluer, eh bien, il n'y aura pas d'écologie. Il y a des tas d'endroits, bon, je reprends l'exemple de la Crystal Ridark, où les travailleurs travaillent avec de la peinture au plomb. C'est profondément dangereux et pour l'environnement, mais aussi dangereux pour leur santé. Quelles sont les mesures de surveillance? Quelles sont les mesures prises pour contrôler justement le taux de plomb dans le sang des travailleurs, pour contrôler, y compris l'amiante, hein, dans l'environnement, parce que je parle du plomb, mais je pourrais parler aussi de l'amiante, qui sont des catastrophes de santé publique, ou la pollution au diesel, etc. On a vu avec le scandale du diesel qu'en fait, ce n'était pas que Volkswagen qui camouflait les tests les tests sur les automobiles, c'était l'ensemble des groupes automobiles. Et ils continuent à fabriquer leurs moteurs, ils continuent à truquer les tests, et ils sont protégés finalement par le fait qu'ils sont dans leur entreprise, ils sont chez eux, et il faut que la population se plie à leurs lois. Eh bien, nous pensons qu'au contraire, les travailleurs qui font fonctionner toutes ces entreprises, qui les connaissent bien mieux que les patrons, qui jouent à acheter et à se revendre, eh bien, eux, ils pourraient faire fonctionner l'économie en la contrôlant et en respectant, bien évidemment, d'abord leur santé, mais en respectant leur santé, ils respecteraient aussi l'environnement et la santé des populations qui vivent proches de ces usines.
Il y a également toute une série d'habitudes de vie, également d'infrastructures à retravailler si jamais on veut en arriver à un système totalement écologique. Je pense par exemple dans la région à ce qu'on appelle la REV3, la troisième révolution industrielle. Pour vous, c'est ce genre d'initiative aussi qu'il faudrait encourager ou est-ce que ça ne va pas dans la bonne direction ?
Moi, je pense que toutes les mesures qui sont prises pour faire progresser la technique et faire progresser les sciences, elles sont les bienvenues. Mais là encore, il faut pas se mentir. Derrière un certain nombre de subventions qui sont données aux entreprises sous prétexte de meilleure technologie, sous prétexte de recherche et développement, ce sont encore là des moyens d'utiliser l'argent public pour subventionner les entreprises. Et ça reste quand même un immense gâchis, puisque ça ne réussit pas à régler le problème de l'emploi et du chômage.
Les premiers acteurs également de sensibilisation aux questions écologiques, ce sont les associations, dont la situation, c'est quelque peu... Enfin, pour les associations environnementales, leur situation s'est un petit peu dégradée avec le changement de présidence à la région. Certaines se sont vues complètement supprimer leurs subventions. Je pense à la LPO, par exemple, 62. Pour vous, est-ce que l'État devrait participer à stabiliser la situation des associations ou est-ce que ça ne relève pas de sa compétence ?
Nous sommes communistes, hein, comme je l'ai déjà dit, et nous n'attendons rien de l'État. Nous pensons que dans cette société, les choses positives, les choses qui permettront de faire progresser, elles viendront du monde du travail. Quand je parle du monde du travail, je voudrais préciser les choses. Je parle bien sûr des travailleurs, mais je parle aussi des chômeurs, de ceux qui sont privés d'un emploi. Je parle aussi des retraités, de ceux qui ont eu un emploi qui maintenant sont à la retraite, souvent avec des retraites très petites, voire des retraites de misère. Et je pense aussi aux petits agriculteurs, aux petits artisans, aux petits commerçants qui n'exploitent personne et qui vivent eux aussi de leur travail. Eh bien, tous ensemble, on pourrait réorganiser bien des choses dans la société, que ce soit au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional. Et en tous les cas, ces dernières décennies, les différents gouvernements qui se sont succédés nous ont montré qu'on n'avait rien à attendre d'eux, que ce soit en matière d'écologie, en matière de monde associatif, en matière d'emploi, en matière de revenus, de logements, etc. Par contre, cette force immense que représente le monde du travail, qui fait tout fonctionner dans la société, bien elle a les moyens de contrôler l'économie et elle a les moyens de régler bien des problèmes. Mais pour cela, elle a besoin de prendre confiance en elle. Et c'est la raison de notre présence à l'élection législative. Nous pensons que cette force économique que représente le monde du travail, il doit se transformer en une force politique. On doit se rassembler, on doit se retrouver, on doit se réunir. Et on utilise aussi cette élection politique pour dire aux travailleurs, il faut construire un parti, il faut que nous construisions notre parti pour que cette force économique magnifique que nous avons, nous puissions aussi l'utiliser dans le domaine de la politique et mettre notre nez dans les affaires du patronat.
Tout cela, ça exigerait un énorme changement systémique. Vous parlez donc d'une nouvelle république ?
Non, nous ne parlons pas d'une nouvelle république. De ce point de vue-là, nous ne partageons pas le programme politique de la France insoumise qui parle de la 6e République. Voilà, les grands groupes capitalistes, ils existent depuis le 19e siècle au bas mot et ils ont fait des profits, ils ont mené des guerres, ils ont mené des entreprises coloniales, que ce soit sous la 3e, la 4e ou la 5e République. Non, il faut un véritable changement et ce changement ne passera pas par un simple tour de passe-passe et un changement de numéro de la République.
Un point sur l'immigration. Déjà, première question très simple. Votre avis, finalement, sur la question migratoire ?
Alors, de ce point de vue-là, nous avons un avis qui est assez particulier et très tranché, puisque contrairement à beaucoup de partis politiques, nous sommes pour la liberté de circulation et la liberté d'installation de tous les travailleurs, quel que soit le pays d'où ils viennent. Voilà. Aujourd'hui, on vit dans un monde, comme on dit, mondialisé. Hein. Les capitaux traversent les frontières plusieurs fois par jour. Les grands patrons, des grands groupes industriels ou banquiers dans leur jet privé, c'est pareil. Ils traversent les frontières plusieurs fois par jour. Et finalement, il n'y a que nous, les travailleurs, qui devrions être bloqués à la frontière terrestre. Et puis, nous devrions regarder celui qui est de l'autre côté de la frontière, le travailleur belge, le travailleur anglais, le travailleur espagnol, comme un concurrent, voire comme un ennemi, comme un adversaire qu'il faudrait combattre. Donc effectivement, de ce point de vue-là, nous ne partageons pas du tout les idées nationalistes, protectionnistes, voire pour l'extrême droite, xénophobes et racistes, puisque nous pensons que nous avons en commun d'être des salariés et que nous partageons ce sort de salariés avec bien des travailleurs du monde entier, que souvent, même parfois, ce sont les mêmes patrons qui nous exploitent, hein, je pense, comme un groupe comme Renault ou un groupe comme ThyssenKrupp, là, qui est présent dans la région. Voilà, il a des entreprises partout dans le monde et finalement, nous travaillons pour le même patron. Donc, puisque nous avons les mêmes patrons, nous avons les mêmes intérêts et par-delà les frontières, nous devons nous unir pour nous battre contre nos ennemis qui sont des ennemis de classe. Nous parlons de classe ouvrière et pour nous, la classe ouvrière est mondiale et son combat ne doit pas être... comment dire, dévoyé par des nationalistes qui cherchent à nous diviser, nous les travailleurs, les uns contre les autres.
Alors ici, juste à côté de la radio, on a justement un camp d'exilés à Noranfont, où on a observé une situation assez incongrue ces dernières années, puisqu'ils étaient en procès face à la mairie et aux propriétaires du terrain sur lequel est situé le camp, c'est allé jusqu'en appel. Et la justice a fini par décréter que elle n'a pas réfuté la propriété du terrain, mais a décrété qu'il fallait maintenir le camp pour le bien des personnes qui y vivent. On s'est retrouvé finalement avec la loi qui défend une structure, une installation illégale. Pour vous, faut-il légaliser les campements? Faut-il au contraire les fermer et mettre en place des centres d'accueil? Quelle serait la solution?
Moi, je pense que dans un pays riche comme la France, hein, je parle de toutes les richesses qui existent, eh bien, on aurait largement la possibilité d'accueillir, bien sûr, plusieurs milliers de migrants. C'est même honteux de voir combien de migrants la France a accueilli, hein, parce que le gouvernement précédent a mené une politique démagogique pour flirter avec l'électorat du Front National. Oui, bien sûr, ces hommes et ces femmes qui fuient la misère, qui fuient la guerre, et souvent la guerre dans laquelle la France a une responsabilité, oui, bien sûr, ils méritent d'être accueillis, ils méritent de vivre dignement, de pouvoir vivre en paix, de pouvoir vivre en sécurité, eux et leurs enfants, comme tous les travailleurs. Et pour cela, l'argent existe, et il faudra bien le prendre là où il est.
C'est-à-dire
dans les caisses du patronat. Voilà, c'est un peu le discours que je tiens depuis tout à l'heure. J'ai pas parlé encore des bénéfices des actionnaires. Le CAC 40, cette année, alors que pour tous les travailleurs, tous les chômeurs, tous les retraités, il a fallu serrer un cran de plus à sa ceinture, faire des sacrifices, choisir est-ce qu'on emmène les enfants en vacances ou est-ce qu'on achète un canapé alors que le canapé est usé, eh bien... Pendant cette période-là, eh bien, les grands groupes capitalistes, eh bien, ils ont fait 76 milliards de dividendes. Et ils ont distribué 76 milliards de profits, pardon, et ils ont distribué environ 50 milliards de dividendes aux actionnaires. Alors cet argent-là, il existe, il est le produit du travail, de notre travail, de ces dizaines de millions de travailleurs que nous sommes. Eh bien oui, cet argent-là, il faut le prendre et il faut l'utiliser pour ce qui est bon pour la population.
Par quels moyens est-ce qu'on peut accueillir donc toutes ces personnes en France? Ça passe par l'installation de quelles institutions, de quelles infrastructures?
Alors, c'est vrai que aujourd'hui, il y a énormément de logements qui manquent, et pas seulement d'ailleurs pour les populations migrantes, mais aussi pour les populations qui sont présentes ici en France. Hein, voilà, il y a beaucoup de mal logés, beaucoup de gens qui dorment dans la rue, donc il faudrait faire effectivement un programme de construction de logements, et ça pourrait être un programme public, puisque je pense que les grands chantiers de bâtiments publics, finalement, ils servent aussi aux bétonneurs, les Bouygues, etc., à faire des profits sur des chantiers publics. Donc ça pourrait être effectivement un grand chantier public qui soit pris en charge par l'État et qui donne du travail à plein d'ouvriers du bâtiment, à des architectes, à des ingénieurs, à des techniciens, etc., etc., et qui permettent de mettre en place de construire des ensembles de logements qui permettent de loger tous les habitants qui ont besoin d'avoir un toit sur la tête.
Merci beaucoup, Laure Borel, d'être venue répondre à mes questions.
Merci à vous.
Et on rappelle donc que vous êtes la candidate lutte ouvrière dans cette 8e circonscription du Pas-de-Calais.
Nous vous informons que le candidat du mouvement 100% n'a pas répondu à notre invitation. Rendez-vous les 11 et 18 juin pour choisir vos représentants à l'Assemblée nationale.